Le temps des chouquettes, votre rodéo littéraire, une émission présentée par Lucas Beria, un mardi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Chères chouquettes du monde entier, avez-vous déjà poussé la porte d'une librairie? Vous êtes-vous déjà immiscé parmi les étagères et les tables peuplées de livres? Y avez-vous découvert des auteurs inconnus et des sujets dont vous ne soupçonniez même pas l'existence? Y avez-vous fait des rencontres? Si oui, et que la librairie est pour vous un lieu familier, gageons tout de même que vous n'en connaissez pas toutes les coulisses, ni de quoi se compose concrètement et loin des fantasmes le quotidien d'un libraire. Et si à l'inverse, vous faites partie de celles et ceux que de tels lieux ont toujours intimidé, voire rebuté, gageons que notre entretien du jour vous donnera l'envie furieuse d'y courir sitôt arrivé à son terme. Dans les deux cas, vous êtes au bon endroit. C'est au 16 avenue Jean Jaurès à Charenton-le-Pont que je vous donne rendez-vous aujourd'hui à la rencontre de Jérôme Guichet et Simon Payen, fondateurs de la librairie La Vie Immédiate. J'ai connu le premier sur les bancs de l'université et le second via le premier lors de virées nocturnes. C'est donc d'une conversation amicale qu'est née l'envie d'enregistrer cette émission, mais aussi d'une curiosité, comprendre précisément ce qui, du haut de leurs respectivement 31 et bientôt 30 ans, a poussé ces deux comparses à ouvrir leur propre librairie, et au-delà vous faire entendre ce qu'ils ont à dire du métier de libraire, de la place du livre dans nos vies et du commerce des idées. Ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes. Salut les amis.
Bonjour Lucas.
Salut.
Merci d'être avec nous dans le temps des chouquettes. On est donc chez vous à La Vie Immédiate. La librairie a tout juste fermé ses portes et vous sortez donc l'un et l'autre de votre journée de travail. Est-ce que vous pourriez commencer par nous décrire la journée type d'un libraire ?
Tu parlais justement de fantasmes autour de ce métier dans ton introduction. Et on pourrait commencer comme ça, le fantasme du libraire seul derrière sa caisse en train de lire des livres toute la journée. Ça n'existe pas. Notre métier, c'est ranger beaucoup, ranger des livres, déballer des cartons, casser des cartons, conseiller des clients aussi à l'occasion, beaucoup d'encaissements, beaucoup de social, de discussions avec les gens. Et voilà, et beaucoup de manutention et beaucoup de petites tâches aussi qu'on ne suspecte pas, changer une ampoule, passer un coup de balai, faire les poussières. Voilà, il y a toujours quelque chose pour s'occuper. Travailler des bons de commande, énormément de rendez-vous avec des commerciaux. Voilà à peu près une journée type est bien remplie en librairie.
Est-ce que dans cette journée ou dans les semaines que vous passez, il y a un moment que vous préférez en particulier ?
Toutes les journées du libraire, en fait, elles sont à la fois identiques et très différentes. C'est-à-dire qu'une journée sera toujours composée de la même chose. Il faut ouvrir la boutique, réceptionner les livres, les ranger et les vendre. Et au milieu, par contre, tous les jours, il y a des choses insoupçonnées. Parce que les demandes des gens sont toujours différentes. Parce que la librairie, et c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est que c'est un métier du réel. Concrètement, il faut voir les choses simplement. C'est un commerce avec une porte automatique qui s'ouvre et qui se ferme. Et entre les deux, il y a des gens qui rentrent. Et les gens sont tous différents. Donc en fait, le moment préféré que j'ai envie de dire dans une journée de libraire, ce serait la demande inattendue. Ce serait la personne qui rentre et qui t'amène à réfléchir à un truc auquel tu n'aurais jamais réfléchi avant.
Et alors justement, dans les gens qui, tu parles des gens qui rentrent chez vous et qui ont des demandes parfois inattendues, mais il y a aussi toutes les personnes qui éventuellement sont un peu effrayées ou un peu de réticence à franchir la porte d'une librairie. Pour vous, comment, c'est quoi votre manière à vous de rendre la librairie accueillante, accessible et de ne pas lui donner forcément l'image d'un espèce de temple sacré de la littérature pour initier?
J'entends ce que tu dis. Après, il y a des endroits où je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que oui, si on voit la librairie comme une librairie où il y a qu'un rayon littérature, oui, ça peut faire peur. Mais en librairie, je vends pas que des romans. Je vends des livres pour les enfants. Je vends des livres pour apprendre à arrêter de fumer. Je vends des livres pour apprendre à faire manger son enfant. Et en fait, des livres pour l'école. Et en fait, tout ça. Les gens, tout le monde vient en librairie. Tout le monde ne vient pas tout le temps en librairie pour acheter le dernier Mauvignier, mais tout le monde à un moment, parce que les gens ont des enfants, parce que les gens veulent dormir, parce que les gens veulent faire à manger, parce que en fait tout le monde à un moment peut arriver en librairie. Et voilà. Et nous, on accueille tout le monde en fait. C'est surtout ça notre credo. C'est on accueille tout le monde, on sourit à tout le monde, on dit bonjour à tout le monde, et on veut se couper de personne.
Alors justement, on va avoir l'occasion de développer tout ça, mais je voulais revenir un peu sur les prémices de cette aventure-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, tous les deux, Et le moment où vous avez évoqué pour la première fois l'idée d'ouvrir la librairie.
Avec Simon, on s'est rencontrés en 2017 en licence professionnelle de l'école de la librairie, qui s'appelait encore INFL à l'époque. Et on était des libraires en devenir. Par quelques stages, on n'avait jamais travaillé en librairie. Et donc, on se rencontre le premier jour. Simon arrive en retard avec une banane d'enfer, tout content de lui pour le premier jour. Et je sais pas, tout de suite, je me suis dit que potentiellement, je pourrais m'en faire un copain. Et ça n'a pas loupé. Et on a tout de suite matché, que ce soit humainement, mais aussi sur nos goûts littéraires. Parce que l'une des premières discussions qu'on a eues à l'école, ça a été autour d'un livre qui venait de paraître à l'époque, Fief de David Lopez. Et ça a été notre premier coup de cœur partagé, notre premier livre en commun à tous les deux. Et voilà, d'ailleurs, ça nous a suivis, puisque quand on a créé cette librairie ici à Charenton, on a proposé à David Lopez, pour marquer aussi, puis pour continuer cette histoire et pour marquer le coup, de devenir le parrain de la librairie, chose qu'il a gentiment accepté.
Et quand est-ce que vous avez senti que ça allait devenir un peu concret, cette histoire ?
Bah, tout de suite, on était étudiants, donc effectivement, on sortait encore beaucoup à l'époque. Et y avait cette petite, on appelait ça une blague de fin de soirée, mais c'était cette petite rengaine qui revenait tout le temps. Un jour, on aura notre librairie, un jour, on ouvrira notre librairie. Et l'année dernière, quand on a entendu parler de ce local et de la recherche de la mairie de Charenton pour installer un commerce ici, on est venu visiter et on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie d'ouvrir une librairie, ou est-ce que ça doit rester cette blague de fin de soirée qu'on se répétera inlassablement et peut-être qu'on regrettera un jour de ne pas avoir su concrétiser. Et on n'a pas réfléchi longtemps. Hein. On s'est dit tout de suite que, effectivement, il était temps d'arrêter de rêver de ça et de le faire vraiment. Et on s'est lancé dans l'aventure. Et aujourd'hui, on en est là et on en est très content.
Est-ce que vous avez, parce que vous étiez tous les deux libraires précédemment, vous n'êtes pas parti de zéro, est-ce que vous aviez quand même mesuré tout le travail que ça allait demander, et notamment tout le travail préparatoire qui a été, moi je vous ai suivi de loin, tout ça, j'ai l'impression que vous avez passé bien une année entière avant d'ouvrir le lieu vraiment aux gens. Est-ce que vous réalisiez la quantité de boulot que ça allait être?
On avait conscience que ce serait beaucoup de boulot. Mais on peut jamais tout anticiper, quoi. C'était effectivement, ça nous a pris à peu près un an. On est venu visiter le local en mars 2024 et on a ouvert en mars 2025. On savait qu'il y aurait beaucoup de choses à faire parce qu'on partait d'une page blanche. C'était des bureaux. Il a fallu tout casser, tout recréer de zéro, tout imaginer, que ce soit le nom, les couleurs, la typographie. Les livres qu'on mettrait dans les rayons, les étagères sur lesquelles on allait poser les livres, tout était à imaginer. Et en plus de ça, y a tout ce qui est l'administratif derrière, la comptabilité, les demandes de subventions, qui sont quand même un gros enjeu quand on ouvre un lieu comme une librairie. C'est qu'on a la chance de pouvoir bénéficier de subventions, mais ça demande un travail, des dossiers. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était un appel à projet de la mairie. Donc, il a fallu faire un dossier déjà pour convaincre le maire et les élus et pour prouver aussi que notre projet était le meilleur face à d'autres projets qui étaient sans doute très bien aussi. Et donc, voilà. Et après, on a eu des mauvaises surprises, mais rien d'insurmontable. Et on a eu la chance d'être deux, en fait. Et je pense que ça aussi, quand l'un pouvait un petit peu se décourager ou avoir des doutes, ou hésiter sur certaines choses, il y avait toujours le deuxième qui était là pour remonter le moral, pour pousser et pour prendre le relais.
Et alors un autre élément clé lorsqu'on choisit d'ouvrir une librairie, et j'imagine que ça, voilà, vous avez eu pas mal d'heures de discussion là-dessus, c'est son orientation et la composition de son fonds de départ. Alors vous êtes une librairie généraliste, mais comment, avec ce terme qui peut paraître un peu fourre-tout, comment malgré tout on se dégage, on se singularise, et comment vous y avez réfléchi à la librairie que vous vouliez faire?
Moi, je l'aime bien, ce terme généraliste, j'y suis assez attaché, je le trouve assez beau. Moi, j'aime bien que tu viennes acheter un guide sur le Portugal et que en même temps tu puisses prendre Portugal ou Lisbonne de Pessoa. Tu vois, en fait, j'aime vraiment bien que tu puisses acheter des choses très différentes dans un même endroit. Et après, bah ouais, tu composes un fonds. Donc, on a ouvert avec 16 000 références. Il y en a 17 000, 18 000 aujourd'hui. Et en fait, tu as un logiciel qui te sort. Il y a 1 million de livres disponibles en France aujourd'hui. Donc, tu as un logiciel et tu fais entrer, passer, passer pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. C'est un truc, ça nous a pris quoi ? Peut-être 50 heures. C'était légendaire. C'est légendaire. Et du coup, tous les livres qui sont là, on les a choisis un par un. Celui-là, est-ce qu'on le prend ? Ok. Celui-là, est-ce qu'on le prend ? Ok. Et ce qui est intéressant là, c'est que globalement, dans nos genres de librairies, 80% des livres sont identiques. J'ai 80% des mêmes livres à peu près que les librairies qui me ressemblent. Même peut-être plus, même peut-être 90. Mais le détail, l'orientation, en fait, elle se joue dans les 10%, dans les 10% restants. En fait, c'est vraiment les détails qui font l'orientation de la librairie. Parce que je veux dire, tout le monde a L'étranger de Camus. Tout le monde a le livre de Morisot. Tout le monde a Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Je veux dire, tout le monde. Et tu ne fais pas ta différence là-dessus. Par contre, sur des petits détails, et nous, les petits détails, on les a vachement soignés. D'abord, la poésie, qui est vraiment notre marque de fabrique. Jérôme, il a fait son mémoire à l'école là-dessus. C'est un cramé de poésie. Moi, je lis beaucoup de poésie contemporaine. Le théâtre aussi, qui est, on peut dire, ma première, ou je ne sais pas, le hiérarchiser, passion. Et le vélo. La littérature cycliste occupe une place très importante ici.
Alors, tu parles de poésie, justement. La vie immédiate, elle est née sous l'égide et l'inspiration d'un poète en particulier, qui est Paul Éluard. Vous avez donné à la librairie le nom d'un de ses recueils les plus célèbres et son univers poétique est omniprésent. Les couleurs bleues et oranges avec lesquelles Éluard décrivait la terre habille la librairie, on retrouve les mots d'Éluard incrustés sur l'une des portes d'entrée et l'un de ses poèmes originaux écrit de sa main est même affiché et encadré sur l'un de vos murs. Cette envie de faire d'Éluard un peu le compagnon de route de ce lieu, elle est venue comment et c'est quoi le rapport que vous avez avec cet auteur-là?
Déjà, en fait, le nom de la librairie vient de deux choses. On voulait, de part du coup notre goût pour la poésie, trouver une référence poétique, trouver un auteur, un poète qui nous rassemblait tous les deux. Mais il y avait aussi et surtout la volonté de s'inscrire localement. Et on a découvert qu'Éluard avait vécu à Charenton. Et même plus que ça, il avait vécu dans un immeuble à 200 mètres de la librairie, dans la même rue. Donc qui était un hasard complètement dingue, si tant est qu'il y ait des hasards dans la vie. Et on s'est dit, bah voilà, c'est forcément ça en fait, ça doit être Éluard, et faut qu'on trouve dans son œuvre une référence, quelque chose qui nous parle à tous les deux et qui sera à même aussi de représenter cette librairie. Et quand on a la vie immédiate, c'était c'est quand on l'a lu, quand on en a parlé pour la première fois, on s'est dit, et la vie immédiate, t'en penses quoi? On a dit, bah en fait, c'est ça. C'est forcément ce nom-là. Déjà, il y avait le mot vie dedans. Forcément, la vie, on a toujours pensé la librairie comme un lieu vivant, avec des rencontres, avec des gens qui viennent, un lieu de discussion. Enfin, voilà, on avait cette idée-là d'un lieu vivant.
L'immédiateté, c'était Pascal Quignard, qui était notre premier invité, notre deuxième invité. Il disait un truc très beau sur l'immédiateté. Il disait que pour lui, la littérature, c'était vraiment un art de l'immédiateté parce qu'il n'y avait besoin de personne entre le lecteur et le livre pour qu'il se passe une émotion. Il y a plein de... Et j'adore le cinéma, j'adore la musique, mais je veux dire, il y a besoin de moyens, il y a des intermédiaires, c'est beaucoup plus compliqué. La littérature, c'est profondément un art de l'immédiat. Et nous, c'était ça, cette idée d'une librairie où potentiellement les gens viendraient avoir immédiatement une émotion. Ça, c'était important pour nous.
Alors, on l'entend, Simon, dans ce que tu dis, et Jérôme aussi, mais la passion pour la poésie, la littérature, c'est évidemment une chose qui vous a réunis au départ. Mais vous avez quand même l'un et l'autre des parcours différents, et vous venez de milieux sociaux différents. Est-ce que vous seriez capable de nous dire à la fois comment il est né, votre goût pour la littérature, et le livre en général, et d'identifier un peu la période où l'idée de vivre du livre d'une manière ou d'une autre c'est devenu un peu concret et envisageable?
Ouais, moi je peux très bien dire ça. Moi, quand j'étais petit, donc moi j'ai grandi dans une famille plutôt aisée, surtout du côté de ma mère, très aisée, et du côté de mon père, classe moyenne. Les livres étaient omniprésents chez moi. Mon grand-père est poète, ma mère s'est mise dans la deuxième partie de sa carrière à l'écriture. Moi, petit, je détestais la fiction. Je détestais qu'on me raconte des histoires. J'adorais les documentaires. J'adorais les livres documentaires, je dévorais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, après, j'ai arrêté de lire. J'ai vraiment, vraiment arrêté de lire, quoi. Collège, lycée, moi, je pensais que à jouer et à faire la fête. Je lisais pas du tout, quoi. Et en fait, c'est un moment où je reprends la lecture parce que j'ai un coup de foudre pour l'Irlande. Et je lis Mon traître de Saoirse Chalandon parce qu'à ce moment-là, je me dis que je vais quand même me remettre à lire. J'avais arrêté bien depuis 5-6 ans, quoi, même un peu plus. Et c'est vrai que Chalandon, Mon traître, ça m'a vraiment fait un effet incroyable. Ça a nourri mon obsession pour l'Irlande. Et en fait, je me suis dit, putain, la littérature, ça peut faire ça, quoi. Ça peut rentrer totalement dans ta vie, à toi, dans ton réel, en fait. Ça peut être très contemporain. Et en fait, c'est par le contemporain que je suis revenu à l'écriture et à la littérature. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi de... Au début, juste avant que je sois libraire, j'avais surtout envie de changer les choses, quoi. J'avais envie de militer, j'avais envie de faire de la politique, et la librairie m'est apparue comme un lieu propice pour ça.
Jérôme, toi, ça s'est manifesté comment, tout ça ?
Moi, je viens d'un milieu populaire, il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi, j'avais pas forcément de modèle de lecteur. Mon père lit pas du tout, ma mère a toujours lu un petit peu, mais pas énormément. Et malgré tout ça, en fait, j'avais des livres. Mes parents m'achetaient des livres régulièrement. Mes grands-parents m'offraient des BD à chaque fois qu'ils venaient me voir. Et donc, j'étais un gros lecteur. Toute ma jeunesse, je pense que jusqu'au collège, j'étais un très gros lecteur. Et j'ai perdu ça à un moment donné dans mon adolescence. Et j'y ai repris goût petit à petit. À un moment donné où je me perdais un petit peu au lycée, où j'ai arrêté d'être un peu assidu en cours, où j'ai un peu laissé tomber. J'ai failli ne pas avoir mon bac aussi à l'époque. Et j'ai un copain qui m'a mis des livres dans les mains, et c'est des livres qui aujourd'hui en fait comptent encore beaucoup pour moi. Il y avait Le Baron de Perché de Calvino, il y avait du Howard Fast, il y avait des choses très différentes, mais c'est des lectures qui m'ont marqué, en fait, que je conseille encore aujourd'hui, que je suis hyper fier de pouvoir encore conseiller aujourd'hui, parce que c'est des œuvres qui comptent pour moi. Et après, quand j'ai fait mes études, j'ai reperdu un petit peu ça, et sauf que mes études, bah, même chose, c'est pas allé bien loin, je me suis vite arrêté. Et je me suis retrouvé à un moment donné où j'étais un peu perdu, hein, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me posais beaucoup, beaucoup de questions sur ce que je voulais être et ce que je voulais faire. Et à cette époque-là, je me suis retourné un petit peu vers les livres. J'étais à Toulouse à ce moment-là, et je me suis mis à fréquenter des librairies, notamment Ombre Blanche et BD Ciné, et je me suis mis à lire beaucoup. Beaucoup avec ce que me permettaient mes pauvres revenus d'étudiant de l'époque. Je suis retombé dedans, et c'est à ce moment-là aussi, du coup, comme j'étais dans une phase de ma vie où j'avais arrêté les études, je me demandais ce que je ferais, ce que j'allais bien pouvoir faire, où l'idée aussi est née de devenir libraire. C'est lié, en fait, en réalité, c'est mon retour à la lecture, et en même temps, cette prise de conscience que le seul endroit où je me sens bien, c'est dans les librairies, et c'est quand je passe 10 minutes avec mon libraire à parler de mes dernières lectures, à me faire conseiller des livres, et je me suis dit que j'aimerais bien être de l'autre côté.
Alors, libraire, aujourd'hui, c'est un métier qui est confronté à de nombreux défis. Parmi eux, il y a notamment l'explosion de la production éditoriale à laquelle vous êtes confronté, donc la quantité de livres de plus en plus importante dans laquelle vous devez faire vos choix, l'inflation générale de l'économie, et puis les modifications assez profondes des habitudes de lecture. Face à ça, si on peut le formuler comme ça, c'est quoi un bon libraire ?
Sur l'augmentation de la production éditoriale, c'est un sujet qui est assez complexe, parce que en vrai, de vrai, si tu réfléchis bien, c'est quand même un peu un problème de riches. C'est-à-dire que, ok, il y a trop de livres qui sortent parce que le marché du livre est le seul marché qui réagit à une baisse, une stagnation, voire une baisse de la demande par une explosion de l'offre. C'est-à-dire ça n'existe dans aucun autre marché. Après, au bout d'un moment, ma table, elle ne grandit pas. Ma table, année après année, je mets le même nombre de piles dessus. Donc si la production augmente, j'en achète moins, je sélectionne mieux. Mais en vrai, l'augmentation de la production éditoriale, c'est quand même quelque chose d'assez stimulant aussi. Le revers de la médaille qui est moins stimulant, par contre, c'est que s'il n'a jamais été aussi facile d'éditer un livre aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi difficile de le vendre. Il y a le tirage moyen baisse, et ça, c'est un vrai sujet. Donc nous, face à ça, on se positionne vraiment en acheteur de plus en plus radical. C'est-à-dire, de plus en plus, on ne prend pas les livres. Parce que les livres qu'on aime, on veut les garder longtemps sur table. On veut les défendre. Nous, on s'est toujours dit que ça ne servait à rien d'avoir un coup de cœur si tu ne le vendais pas. Un coup de cœur, il faut le vendre. Et donc, un livre qu'on aime, on le garde sur table longtemps, longtemps, longtemps. Et on garde des piles de fond sur table des livres parus il y a 20 ans. Les gens s'en fichent, hein, de savoir si le livre est sorti au mois d'août ou 2025 ou au mois d'août 2002. Les gens s'en fichent complètement. Ils veulent juste un bon livre. Donc, face à ça, nous, on réagit aussi en conséquence, c'est-à-dire qu'on achète moins. On achète moins et on essaie de limiter les retours. Et donc, on fait des piles de fond, des piles qu'on aime. On joue là-dessus. Et un bon libraire, à mon avis, c'est... Aujourd'hui, c'est ça, c'est quelqu'un qui tend à ça, qui tend à sélectionner. Et cette augmentation de la production, c'est aussi une chance, je disais, c'est dur de vendre, ok, mais c'est aussi une chance. En revanche, ce qui est énervant, c'est quand un livre pourrait marcher et qui se fait broyer par la machine. Ça, oui.
Jérôme, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que le bon libraire aujourd'hui, c'est celui qui résiste un peu à la course effrénée généralisé?
Évidemment, c'est en partie. Heureusement, c'est pas que ça. Mais effectivement, c'est une énorme partie de notre métier, c'est de choisir les livres qu'on va vendre. Et de dire qu'on croule sous les nouveautés, c'est vrai et à la fois c'est faux. On croule sous les propositions de nouveautés. Les représentants commerciaux nous présentent de plus en plus de livres. Après, comme disait Simon, nos tables, elles sont pas extensibles. Donc nous on sélectionne plus et on prend ce qu'on a envie de prendre. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de libraires qui oublient ça, en fait, que en fait on fait ce qu'on veut, on prend les livres qu'on a envie, et si on a envie de mettre du zéro partout et d'en prendre que 10, on n'en prend que 10, et si on a envie d'en prendre 50, on en prend 50. Mais on a le choix, en fait, on fait ce qu'on veut. Et c'est justement aussi ce qui fait que c'est toutes les librairies ne se ressemblent pas, en fait. C'est parce que chaque libraire est différent et chacun, même s'il y a ce socle dont on parlait tout à l'heure qui va être le même d'une librairie à une autre, en fait, les livres à la marge, les livres qu'il y a autour de ce socle-là, bah, ils vont être différents d'une librairie à une autre. Et ça, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et voilà. Mais après, il y a d'autres questionnements, parce que tu parlais des enjeux, etc. Mais ça, la surproduction vient aussi avec une question écologique, forcément. Aujourd'hui, les livres, quand ils ne sont pas vendus, on les retourne, ils sont détruits quasiment systématiquement. Et ça, c'est un problème. Et donc c'est pour ça aussi, moins acheter et acheter mieux, ça veut dire moins retourner, et donc c'est de s'assurer que les livres que nous on a en magasin, on les vende et qu'on les retourne pas pour qu'ils soient détruits derrière. Et tout ça, c'est le même système, en fait. Ça, tout ça fonctionne ensemble, tout est lié. Et voilà. Et après, qu'est-ce qu'un bon libraire, évidemment? Donc c'est d'être attentif à ces choses là mais c'est aussi, voilà, être quelqu'un de curieux, d'être quelqu'un d'amical, d'agréable, d'avoir envie de partager, en fait, aussi. Parce que même si tous les clients ne nous demandent pas des conseils et qu'on passe pas notre temps à faire des conseils, on partage par les livres qu'on met en avant, on partage par les livres qu'on met en vitrine, et on partage, oui, par les discussions qu'on a, les rencontres qu'on fait. Et pour partager au mieux, il faut être curieux et pas s'intéresser qu'aux dernières sorties. Il faut être capable de lire aussi les auteurs qui font la littérature, qui ont écrit à toutes les époques, mais aussi s'intéresser, aller au théâtre, aller au musée, aller au cinéma, lire des journaux, lire des articles. En fait, ça fait partie d'un tout, en fait, parce que crier, je sais pas, au chef-d'œuvre ou sur un livre qui vient de sortir, si on a lu que ce livre là ça veut pas dire la même chose que quand on crie au chef-d'œuvre sur un livre qui vient de sortir et qu'on est capable de le relier à un film, à une pièce de théâtre ou à d'autres livres qui sont sortis avant ça. Et ça, je pense que c'est extrêmement important.
Parmi les activités importantes à la librairie qui vous tiennent à cœur, il y a notamment les rencontres que vous organisez régulièrement avec des auteurs et des autrices d'horizons très, très divers. Ces rencontres, elles se multiplient en librairie depuis pas mal d'années. C'est devenu un exercice récurrent, mais pour vous, quelle place et quelle fonction elles occupent ?
C'est vrai qu'elles occupent une place hyper importante. On a vraiment construit, on pourrait dire, un peu tout autour de ça aussi. Parce qu'on veut être un lieu de vie, parce que c'est important pour nous de proposer une animation dans le quartier. Après, si je vais être tout à fait honnête, on a proposé ça aussi parce qu'on aime ça, quoi. Moi, foncièrement, j'adore interviewer des gens. Je pense que je lis pas du tout de la même manière depuis que j'interview qu'avant. En fait, interviewer quelqu'un, ça te fait... Alors, sauf si tu poses des questions standards à la con que tout le monde pose sans avoir lu le livre. Mais si tu respectes vraiment la personne que t'aimes, que t'invites et que tu l'aimes et que t'aimes son œuvre, en fait, t'es obligé de rentrer dans le bouquin d'une manière qui est quand même pas commune. Et aussi de rentrer dans son œuvre parce que ça te fait lire des à côté. Donc, en fait, la préparation d'une rencontre, ça prend du temps. Ça prend plusieurs heures parce que déjà tu lis le livre, mais tu le lis pas pareil. Tu le lis en lecture active, tu le lis en soulignant et après tu te replonges dans le bouquin et c'est un truc auquel tu penses beaucoup. Nous, comme on en fait une par semaine, c'est vrai que parfois quand on enchaîne 3 ou 4 dans le mois, ça prend du temps. Ça casse un peu ton rythme de lecture parce que ça te le structure aussi en même temps. Mais franchement, oui, je pense que la première réponse avant de dire que c'est pour la clientèle et que c'est évident, moi je le fais parce que vraiment j'aime ça, quoi.
Et du côté de vos clients et des personnes qui assistent à ces rencontres, est-ce qu'elles vous font des remarques similaires ? Est-ce que c'est arrivé que des clients viennent à une rencontre soit parce qu'ils étaient familiers des écrits de cette personne-là, soit par curiosité, donc ils découvrent la personne, mais est-ce que vous avez des clients qui vous ont dit « mais depuis que j'ai écouté Laurent Mauvignier qui est venu chez vous par exemple il y a quelques jours », des clients qui vous ont dit mais ça m'a changé quoi, ma manière de lire, d'envisager ces textes, etc.
Et sur la deuxième partie de ta question, c'est intéressant quand tu la racontes avec Mauvignier, est-ce qu'il y a des gens qui... Moi, précisément, il y a 4 heures, Stéphane, qui est venu me voir en me disant, franchement, merci. J'ai lire Mauvignier, je peux dire que ça a changé ma manière de lire. Et il ne connaissait pas Mauvignier. Et il est venu à la rencontre avec Mauvignier. Donc, ouais, en fait... Si on ouvre une librairie, c'est aussi parce qu'on croit au pouvoir de la littérature, quoi. Et quand on invite des écrivains, c'est aussi parce qu'on croit en leur pouvoir et qu'on les aime.
Alors on pourrait continuer de se parler pendant des heures, mais je voulais quand même, on va devoir arriver au terme de l'entretien. Je voulais finir avec une note un peu d'avenir. Si vous deviez discuter avec une personne qui voudrait se lancer dans ce métier, quel conseil, si vous aviez un conseil pour aller rapidement, que vous lui donneriez, ce serait lequel ?
Si je devais donner un conseil, je ne sais pas si j'aurais un conseil à donner, mais en tout cas, ce que je demanderais à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier, c'est d'être attentif et de s'intéresser en fait à la réalité de ce métier. Parce qu'on ne peut pas toujours se cacher derrière cette image d'Épinal, on ne peut pas toujours... Il y a trop de gens déçus en fait qui viennent en librairie, mais parce qu'en fait, ils ne se sont pas peut-être pas suffisamment documentés ou ils n'ont pas suffisamment parlé avec des libraires. Ou en fait, il faut... Enfin, vraiment, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce métier. Mais si on est une personne en fait, qui a conscience aussi de l'endroit dans lequel on met les pieds, de la réalité de ce métier-là, dans ce qu'il a de difficile, mais aussi dans ce qu'il a de plus beau. Et oui, mais moi, j'encourage les gens qui veulent faire ce métier-là, évidemment. Genre, venez en librairie, faites des stages, parlez avec vos libraires. Et on aura toujours besoin de nouveaux libraires motivés et prêts à faire perdurer ce métier.
Moi, je dirais, si j'avais un conseil à donner, c'est soyez pas seul, entourez-vous, associez-vous. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'il faut pas faire les choses dans son coin. La librairie, c'est collectif, qu'il faut connaître d'autres librairies, qu'il faut aller dans des librairies, qu'il faut s'associer avec des gens. En fait, c'est la différence qui est intéressante en librairie. Il faut s'associer avec des gens différents. C'est le seul moyen de mieux comprendre le réel et de mieux couvrir le réel. Voilà, associez-vous, comme nous, on s'est associés.
Bon, je pense qu'on peut finir sur cette très belle note. Merci les amis d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, merci beaucoup Lucas.
Merci Lucas, vive le temps des chouquettes.
J'étais ravi de passer ce petit moment avec vous évidemment. Alors je vais inviter toutes les chouquettes qui nous écoutent à vous rendre visite à la vie immédiate pour parler avec vous, s'associer à vous, découvrir ce métier, découvrir les livres que vous proposez. La librairie donc au numéro 16 de l'avenue Jean Jaurès à Charenton-le-Pont. Vous êtes ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30 et le dimanche matin de 10h à 13h. Demain Jérôme, c'est toi qui t'y colle si mes infos sont bonnes. Quant à nous, chers chouquettes du monde entier, on se retrouve bientôt pour de nouvelles réjouissances littéraires. D'ici là, bonne lecture.